おかしい、おかしい。
就是卢布贝吉托帕罗吉帕皮罗林修杰的告诉公布雷也为中秋的中的加盟嘎来推动的手
Bonsoir. Deux thèmes à débattre dans ce dialogue entre Congolais. D'abord, la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Didier Etumba Longila. Et puis, le président Joseph Kabila déplace son bureau du Palais de la Nation au Palais du Peuple. Comment analyser ces deux faits? Vous êtes nombreux à réagir. Nous reviendrons à vos réactions dans cette émission avec, comme invité, Adèle Kaïnda Maïna. Elle est députée nationale PPRD. Elle est également présidente de la sous-commission politique et bonne gouvernance au sein de la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale. Son vice-président dans cette sous-commission à l'Assemblée nationale, il s'agit d'Emery Okunji, députée nationale des forces novatrices pour l'Union et la solidarité communiste. Parti politique membre de l'ODR, c'est une plateforme de l'opposition. Je vous l'ai dit, il est vice-président, donc dans la même sous-commission que Adèle Kaïnda Maïna. Nous avons aussi Achille Kabongo, il est avocat au barreau de Kinshasa et président de l'ONG Transparence Afrique. A tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Premier sujet de cette émission, nomination d'un nouveau chef d'état-major général des FARDC. Il s'agit du lieutenant général Didier Etumba Longila. Il remplace à ce poste le lieutenant général Dieudonné Kayembe Mbandakulu. Mais Didier Etumba, qui est-il? Son portrait avec Innocent Olenga.
53 ans révolu, ressortissant de la province de l'Équateur, Didier Etumba s'est fait recruter dans l'armée en 1979 sur base d'un concours. Il est envoyé la même année à l'école royale militaire à Bruxelles pour les études d'officier. Il rentre au pays en 1986 et obtient le grade de lieutenant. Le régime Kabila le trouve avec les galons des majors portés depuis 1994. Et c'est avec ce régime qu'il prend l'ascenseur conseiller au cabinet du chef de l'État, haute fonction à la DENIA, patron des renseignements militaires et expert militaire dans les négociations à Lusaka et à Sankiti. Jusqu'à la fin de sa nomination en tant que chef d'état-major des FARDC, Didier Etumba était chef d'état-major de la force navale et coordonnateur adjoint du programme Amani et co-président de la commission technique mixte paix et sécurité de ces mêmes programmes. En prenant la tête des FARDC, Didier Etumba s'attend à plusieurs défis à relever. Les grands paris qu'il aura gagnés, c'est de ramener la paix dans l'est du pays en proie à la guerre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous rapprochez peut-être du micro. Voilà. Comment vous avez accueilli la nomination de Didier Etumba?
Eh bien, nous avions bien accueilli sa nomination. Je dirais que c'est peut-être aller trop vite en besogne pour faire un jugement quelconque sur le statut et la nature de l'autorité militaire nommée, pour qui nous avons beaucoup de respect et nous présentons nos félicitations. Nous disons que le chef de l'État a posé un acte qui relève de ses attributions, de sa compétence, eu égard à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. En tant que député national, nous en avons pris acte. Pour autant que ça rejoigne les aspirations profondes du peuple, puisque on ne juge l'arbre que par ses fruits, et nous attendons le voir à l'œuvre pour porter un quelconque jugement.
Voilà. Et vous, honorable princesse Adèle Kaïnda Maïna?
Nous remercions d'abord le chef de l'État, le président Joseph Kabila, et félicitant le général qui a été promu. Nous disons que le chef de l'État, il est d'une intelligence aiguë, parce que, pour votre souvenance, vous vous rappelez que quand il a donné le message pour que le peuple se mobilise en vertu de la guerre qui se greffe à l'est de la République, effectivement, il a donné des missions précises sur pour le gouvernement qui devrait être mis en place.
Oui.
Effectivement, le gouvernement est là, mais il vient maintenant de nommer le général qui doit venir en appui pour aider le gouvernement à ce que qu'il puisse accomplir sa mission.
Est-ce que vous pensez que c'est le candidat qu'il fallait?
Je l'ai dit oui. Le général
Didier
Etumba, c'est un homme capable. Je l'ai découvert dans le livre qui était rédigé par notre président de l'Assemblée nationale,
Vital
Kamerhe. Et vous vous rappelez le livre qu'il avait, je pense, c'était
pourquoi je
il avait présenté avant les élections de 2006, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila.
Okay.
C'est un livre que j'ai lu avec une attention particulière.
C'est tout posé du PPRD.
Tout simplement parce que je suis intellectuel consommé.
Mmh.
Et je l'ai lu, comme je vous ai dit. Il a parlé du général Etumba. Vous allez voir, ses noms sont repris sur plusieurs pages.
Voilà. Donc ça suffit pour vous convaincre sur la personnalité de Didier Etumba.
Oui, parce que à l'époque, quand le président Kamerhe a parlé du général, effectivement, il a présenté dans deux volets, politique et militaire. Ce sont ce qui concernait les négociations à l'est de la République.
Et
je me rappelle dans l'une de pages, et le président Kamerhe a parlé même de la crème intellectuelle qui travaillait en collaboration avec les chefs de l'État sous la supervision de l'ambassadeur Katumba qui est honorable élu de la ville de Lubumbashi, tel que Monsieur Serangwej, qui est ambassadeur itinérant, et le ministre provincial Dikanga, et le professeur Alain Ilunga, il a parlé comment le général a été co-directeur, co-rédacteur de plusieurs accords de Pretoria, c'est pour dire que même la région
du Grand Lac,
je me dis la région du Grand Lac, il connaît bien les réalités,
donc on peut...
il les vit, et je sais bien comment il va bien les surmonter.
Merci beaucoup, honorable. Et pour vous, Achille, Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur...
Merci pour votre invitation.
Ouais.
Je dirais d'emblée ceci, sur le plan militaire, ce n'est pas le plan politique. On ne juge pas une autorité supérieure militaire qui est élevée au commandement des forces armées et des armées congolaises à la manière dont on juge un homme politique qui accède à des fonctions. Ici, nous devons donner d'abord la situation sur terrain, c'est que dernièrement, l'armée congolaise a subi plusieurs revers sur terrain en perdant plusieurs localités. Quand vous voyez
au profit du CNDP,
quand vous voyez le cheminement sur terrain, l'armée congolaise est en train, en quelque sorte, à l'extérieur, avec toutes les nouvelles qui sont répandues sur les radios périphériques, de faire pratiquement la honte de la nation. Alors il fallait peut-être que le commandement change cette fois-ci et que les choses changent. Nous n'avons pas entendu quelque part que l'armée congolaise a foutu quand même une raclée au CNDP qui ne cesse que d'avancer et de prendre localité sur localité.
Et qui devrait...
il fallait peut-être changer de stratégie et donner le commandement des forces armées à quelqu'un qui pourra réorganiser les choses et donner aussi l'occasion aux forces armées de la République démocratique du Congo de répliquer, parce que cette situation est très inquiétante sur terrain. L'Afrique de l'Ouest qui est mêlée, vous savez, avec cette négociation qui est menée par Olusegun Obasanjo, Kunda, avec le CNDP, devient de plus en plus arrogant. Le peuple congolais, 2 millions à peu près de déplacés, vous savez que c'est des situations très préoccupantes, il fallait réagir. Peut-être que, si j'essaye de voir, d'analyser les choses, le chef de l'État essaierait peut-être de réorganiser les choses pour qu'au cas où, peut-être ces négociations ne marcheraient pas sur terrain.
Au moins sur le plan militaire.
Oui, au moins sur le plan militaire, être sûr de répliquer et de donner aussi
du répondant.
Du répondant. Mais pour donner du répondant,
oui,
il faut d'abord se réorganiser et être sûr qu'on a une force de frappe. Il faut que le commandement soit bien assuré.
Oui.
Alors là, c'est dans les prérogatives constitutionnelles.
Oui.
le président de la République, selon l'article 83 de la Constitution, est le commandant suprême des forces armées et celui qui dirige le Conseil supérieur de la défense. Quant à juger l'amiral
Didier
Etumba,
qui aujourd'hui est lieutenant général,
carte sur table, noir sur blanc, nous lui demandons de faire des preuves sur terrain. On peut avoir bien participé à des négociations politiques, mais l'armée, c'est la lutte. C'est la stratégie,
c'est donc
organiser la défense de l'intégrité territoriale. C'est là qu'on va le juger, c'est au résultat, ce n'est pas à la nomination.
Merci beaucoup. On va prendre d'autres réactions, notamment de Alexis Kalimas, il est aussi député national, lui il est député indépendant, élu de la circonscription de Chilingué au Kassai Oriental. Lui pense que cette nomination n'est pas la bienvenue en ce moment. Le lieutenant Didier Etumba, dit-il, est certes compétent et dispose de l'expérience dans la gestion administrative des forces armées. Seulement, en ce qui concerne la guerre à l'est du pays, le député Alexis Kalima se demande si le lieutenant général Didier Etumba saura faire face à cette rébellion et ramener la paix. Autre réaction, celle du sénateur Jacques Joly. Il salue la nomination du nouveau chef d'état-major général des FARDC, tout en reconnaissant les compétences du lieutenant général Didier Etumba. Le sénateur MLC craint cependant que cette nomination ne soit d'aucun apport tant que le contexte politique resterait le même, car dit-il, le problème est structurel. Okunji Emery, qu'est-ce que vous en dites?
Je respecte les positions de mes collègues parlementaires.
Tout le monde semble unanime sur les compétences de ce général.
Effectivement, je suis d'avis et je partage cet avis avec eux. C'est pour cette raison que j'avais dit qu'attendons le voir à l'œuvre, mais il y a des préalables qu'on devait.
Quels sont ces préalables selon vous?
Par exemple, moi j'aurais souhaité de voir par exemple le lieutenant général être nommé avant les nominations des commandants des régions militaires. J'aurais bien voulu que le chef de l'État l'associe aux nominations des commandants des régions militaires.
Pourquoi vous restez là-dessus?
Écoutez, il va travailler avec des gens peut-être qui n'apprécient pas ou qui l'apprécient, mais ces gens-là ne reconnaîtront pas dans lui quelqu'un qui a contribué à leur nomination.
Donc il faut mieux avoir son autorité.
Effectivement, je veux dire, non, nous avons été nommés avant lui par le chef de l'État, donc nous n'avons pas de compte à lui rendre. Tout comme, je suppose qu'ils vont très bien travailler en harmonie, en synergie, mais j'aurais souhaité que le général-major, le lieutenant-général, participe, donne son avis à la nomination des commandants des régions militaires.
Merci. Il y a un auditeur aussi qui nous écrit, c'est François Makiembe. Il nous écrit depuis Bukavu, Kivu, au sud Kivu. Lui, il estime qu'il faut plutôt améliorer les conditions sociales des militaires plutôt que de changer fréquemment le chef d'état-major. Honorable princesse Adèle Kaïnda Maïda.
Je me dis que l'homme se découvre devant un obstacle. Je pense qu'il a beaucoup de défis à relever et cela va concourir effectivement à l'objectif qui doit être mis sur place.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi des préalables, comme le dit Mary Okonji, pour que le lieutenant général Didier Etumba accomplisse sa tâche pour le coup?
Je pense que les préalables là sont inhérents à l'organisation même de l'armée. Parce que dans l'armée, nous savons que effectivement, c'est la discipline et
on a fait des émissions là-dessus. Oui, il y a des militaires qui vivent de la résistance ventrale, tout ça, c'est connu.
C'est pourquoi je dis que les préalables sont inhérents ou bien liés à cette organisation. Je pense que dans l'organisation qu'on doit mettre en place, on doit pouvoir adapter cette organisation à toutes les failles qui se sont révélées pour pouvoir améliorer, enfin de pouvoir attaquer les problèmes à la cause. Et non qu'on puisse effectivement nous pied de décès. Je vais dire ceci, que tous les problèmes qu'on a posés, je me dis deux choses, le contrôle et le suivi. Ça doit être de mise pour que si jamais il y a une personne qui doit ne pas respecter la règle, qu'effectivement la loi parle.
Contrôle et suivi de quoi par exemple? De la ration ou de l'argent, soldats payés aux militaires, c'est ça que vous voulez dire?
Tout ça, ce sont des préalables. Ce sont des préalables, effectivement. si les gens qui sont en France, dans leur subconscient, savent que le minimum est réuni, du point de vue moral, ils sont forts.
Ils sont motivés. Oui.
C'est de ça que je parle. Et j'espère que, comme on l'a dit, laissons le temps. Et je pense que vous nous appellerez un jour pour nous dire, effectivement, le résultat est escompté.
Voilà. On va terminer ce premier thème par vous, Achille Kabongo, par rapport à ce que cet auditeur, François Makiambe, a dit, qu'il ne suffit pas de changer tout le temps des chefs d'état-major. Il faut améliorer les conditions sociales des militaires.
Mais tout à fait. On a fait plusieurs émissions ici, et je le répète comme un leitmotiv. L'on doit dissocier dans l'armée congolaise la chaîne de commandement du circuit de la paix. On ne doit laisser à la chaîne de commandement que la mainmise sur les troupes afin de faire respecter la discipline des troupes, comme l'a souligné l'honorable Adèle. C'est la discipline qui est la mère des armées. Mais quant au circuit de la paix, il doit être dissocié dans la chaîne de commandement. Comment dans l'armée congolaise, c'est toujours celui qui commande, c'est celui-là qui paye. Vous comprenez? On doit les dissocier. Ici, il y a un problème très grave que je vais souligner, Claude. Et c'est très grave. Vous savez qu'en attaquant le camp de Rumangabo, les femmes et les enfants des militaires se sont déplacés. C'est que les militaires congolais qui se battent, leurs femmes et leurs enfants sont des déplacés de guerre. Ces troupes-là sont démoralisées, ils ne savent pas où sont leurs femmes et leurs enfants. Comment peuvent-ils se battre? Et face à eux, il y a cette armée-là de Kunda qui est composée de mercenaires. Bon, il y a là-dedans, oui, des Érythréens. Il y a des rescapés. Nous le disons.
Exactement,
oui, mais j'ai vérifié, j'ai des informations. Il y a des rescapés de Savimbi, il y a de tout ça. Écoutez, il est à la tête d'une troupe de plus de 5000 hommes qu'il contrôle. Et je vous dis, actuellement, nous avons besoin des stratèges. Il faut essayer de réorganiser les troupes. Je pense que l'amiral Didier, le lieutenant général, il est aussi amiral. Parce qu'il vient de la force navale.
Oui, mais non, il est lieutenant de respecter
le chef d'état-major général a du pain sur la planche. Oui. Il faut réorganiser la stratégie. Et très souvent, c'est la stratégie qui a été déplorable. Paraît-il que nous avons perdu beaucoup de localités par manque aussi des stratégies d'attaque. Et nous avons servi tout simplement de comment je peux dire, de caisse de résonance pour Kunda, qui ramassait derrière nous toutes les munitions que le gouvernement met à la disposition de notre armée.
Merci beaucoup, Achille. Deuxième sujet à débattre dans ce dialogue entre Congolais, le président Joseph Kabila déplace son bureau du Palais de la Nation au Palais du Peuple. Comment analyser ce fait? Nous en parlons juste après ce rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le président Joseph Kabila déplace son bureau du Palais de la Nation au Palais du Peuple ce mardi. La garde présidentielle est déjà en poste devant ce qu'il faut désormais appeler l'ancien bureau de Vital Kamerhe. Les agents qui aménagent le même bureau, cette fois pour Joseph Kabila, s'activent avec des coups de balai ça et là. Le déménagement des effets du président de l'Assemblée nationale vers son nouveau bureau dans le même Palais du Peuple a commencé depuis la fin de la semaine dernière. Les meubles de bureau du président de l'Assemblée nationale sont encore visibles dans les couloirs avant d'être acheminés au troisième niveau et laissés de second étage à Joseph Kabila. Cette installation du bureau du président de la République au Palais du Peuple suscite diverses réactions chez les députés nationaux. Pour Alexis Kadima, député indépendant, le chef de l'État viole le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. On écoute Alexis Kadima au téléphone de Berry Charita.
Je suis déçu parce que le président de la République est le garant de nos institutions, de la Constitution. Là, il subsiste par une violation persistante et continuelle de notre Constitution. L'enceinte du siège de l'Assemblée nationale est une zone neutre. Il est interdit à toute personne étrangère à l'Assemblée nationale et à ses services de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres de l'Assemblée nationale et à ses services. Donc, le président de la République n'est pas membre de l'Assemblée nationale. L'organisation et l'exercice du pouvoir dans la République démocratique du Congo est basée sur un principe simple, la séparation de pouvoir. Le président a plusieurs bureaux. Pourquoi est-il allé s'installer au bureau du président de l'Assemblée nationale? Donc, il y aura une garde et ça va gêner la sérénité des travaux des députés et sénateurs.
Voilà, nous avons deux députés dans cette émission. D'abord, honorable Emery Okunji, vous êtes aussi de l'opposition en tant que membre de FONUS et de la plateforme ODER.
Est-ce que vous êtes du même avis que Alexis Kadima?
Effectivement, je partage cet avis. Vous savez, la délocalisation du bureau de l'institution président de la République ne devrait pas normalement être un événement.
Pourquoi?
Si cela doit en être un, c'est parce que ça relève d'une question de droit et de politique. Et l'honorable Alexis Kadima l'a si bien démontré. Question de droit parce qu'il touche au principe de liberté des institutions et de séparation de pouvoir. Tout le monde conviendrait avec moi, même ma collègue, la princesse Adèle,
j'espère.
Dans toutes les lignes des articles 5 et 6 de notre règlement intérieur, les libertés des parlementaires sont menacées. Liberté d'expression, liberté de mouvement, et j'en passe.
Vous avez aussi peur du président de la République?
Ah, effectivement, le président de la République, c'est pas un citoyen simple. Il lui faut en tout cas un arsenal de sécurité. Hein, et dès qu'il est là, vous comprendrez par là que nos libertés seront restreintes. Et c'est tout à fait normal. C'est dans le contexte politique d'ailleurs, d'autant plus que l'institution président de la République a des attributions parfois très sensibles, surtout dans un contexte comme celui-ci, où l'intégrité, la sécurité et la souveraineté du pays sont sérieusement menacées. Alors que nous, la représentation nationale censée être, hein, avec le peuple et dans le peuple, est appelée pendant cette période à afficher un comportement de grande ouverture, hein, avec le peuple, avec ceux qui nous ont mandatés. Alors, la question que nous nous posons, comment allons-nous concilier maintenant cette cohabitation? C'est ici que ça pose problème et qui nécessite des garanties mutuelles en termes de liberté et de sécurité. Mais sur le plan des droits, nous ne devons pas nous dédire, en tout cas, les faits historiques démontrent que le Parlement, le Palais du Peuple, a été, c'est un cadre qui sert en tout cas de siège de l'institution Parlement.
Et non de la présidence.
Non. Et par respect, comme l'a dit l'honorable Alexis Kadima, par respect à l'état de droit dont tout le monde aspire, nous ne pouvons pas comprendre que c'est le garant de la nation, celui qui protège les textes légaux de la République, qui doit favoriser cette cohabitation porteuse de beaucoup de germes et de conflictualités.
Oui, et mais reconnaissez donc, vous pouvez dire, comme Alexis Kadima, que le président Kabila viole votre règlement d'ordre intérieur.
Je ne le dirai pas peut-être dans les mêmes termes.
Vous avez peur de le dire.
Je n'ai pas peur de le dire, mais je dis en tant que garant de la nation, il est le premier, en tout cas, qui doit donner l'exemple de respect des textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Mais il y a un adage qui a toujours dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et gouverner, c'est prévoir. Nous pensons qu'il va se ressaisir et se retrouver autour d'une table avec les présidents des chambres pour qu'on puisse en tout cas harmoniser là-dessus.
Merci beaucoup. Nous apprenons qu'en ce moment, le président Kamere tient un point de presse. On ne sait pas encore quel est l'objet de ce point de presse. Mais interrogé par l'agence France Presse, l'entourage de Vital Kamerhe s'est dit inquiet de ce déménagement, estimant, je cite, qu'il y avait non-respect de la Constitution en regroupant sous un même toit les pouvoirs législatifs et exécutifs. D'après une source de la présidence qui s'est exprimée à Toujours à l'AFP sous couvert de l'anonymat, il ne s'agit pas d'un déménagement mais d'un bureau de travail qui va lui permettre à Joseph Kabila de se rapprocher des chefs de parti et de groupes parlementaires en prévision d'un dialogue par rapport à la situation dans l'est du pays. Quant à vous, honorable princesse Adèle Kaïnda Maïna, Je vous renvoie dans l'article 6 de votre propre règlement d'ordre intérieur. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Il dit ceci. L'enceinte du siège de l'Assemblée nationale est une zone neutre. Elle est inviolable. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire n'est autorisée à exercer ses prérogatives dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale sans l'autorisation ou l'accord du président de l'Assemblée nationale. Comment vous répondez à ceux qui pensent que le président Kabila a violé votre règlement d'ordre intérieur? Là, je pense notamment au député national Alexis Kadima, même si Mary Okonji le dit, mais sous une autre forme.
Oui, ben, c'est comme le collègue l'a dit. Effectivement, je vous dis que vous pouvez lire un luminaire sur toute la ligne. Le chef de l'État, c'est d'abord un homme de paix. Il n'a aucune intention de pouvoir, d'une manière délibérée, violer notre règlement intérieur qui est un acte qui a force de loi.
Mais comment vous expliquez alors?
Ou la Constitution.
Oui, mais comment vous expliquez alors?
Vous savez si nous sommes à l'article 69 de notre Constitution. C'est bien dit, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Nous savons que toutes les lois qui sont élaborées, effectivement, émanent de l'esprit et de la lettre de la Constitution. Et vous venez de me renvoyer.
Comment vous justifiez légalement?
Voilà, vous venez de me renvoyer à l'article 6, alinéa 6
de votre règlement
de notre règlement intérieur. Vous savez que dans le cas de la séparation du pouvoir, il y a les domaines de collaboration entre. Il y a même une institution, on appelle ça l'inter-institution. Ce qui veut dire, vous pouvez imaginer, ou vous pouvez me dire que le chef de l'État peut occuper ses bureaux sans que le président Kamere soit informé. Et effectivement, vous êtes à l'alinéa 6 de notre règlement intérieur. Vous savez, je vais vous dire, le président, il a été élu. Il doit se rapprocher de la Chambre de la Représentation.
Il doit avoir un bureau.
Il doit avoir un bureau. Je vous donne l'exemple. Écoutez, allez à l'article 78 de la Constitution.
Oui.
On dit que si le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci, vous ne pouvez pas que le chef de l'État vienne de poser un acte d'humilité. En tant qu'élu du peuple congolais, qu'ils viennent à la Chambre de la Représentation. Parce qu'ici, je me dis dans tout ça, le mot-clé, c'est la consultation.
Mais est-ce qu'il a demandé, il a eu l'autorisation de Vital Kamerhe? Parce que c'est ce que dit la Ligue.
Mais je vous dis qu'il y a un champ de collaboration. Toutes les institutions fonctionnent parce que le chef de l'État est le garant de la nation.
Donc,
jusque-là,
ouais.
On n'a jamais eu. Vous ne pouvez pas me contredire qu'il y a conflit d'institutions.
Non, c'est pas ça.
Les institutions fonctionnent normalement et régulièrement.
Donc,
est-ce que le fait qu'ils viennent s'installer au palais du peuple, ça fait que nous puissions siéger?
C'est la question que je vous pose.
Mais je vous réponds en disant que ça ne portera pas aucun dysfonctionnement dans le travail régulier de notre plénière ou de notre assemblée.
Alors, on va poser d'abord la question, je reviens vers vous, mais on va d'abord poser la question à un juriste dans cette émission, Maître Achille Kabongo. Comment vous expliquez tout ça?
Je vous répondrai comme un constitutionnaliste d'obédience stricte.
Mmh.
Et là, je serai très technique. Je ne sais pas, mais cette pratique bouleverse, à mon entendement, toute la compréhension de la question constitutionnelle et de l'étude sur les régimes politiques. Parce que nos régimes politiques à nous, ce sont des régimes qui se proposent comme modèle des lois d'autrui, que nous avons implantés. Quand vous prenez dans le parlementarisme britannique, par exemple, la reine d'Angleterre, vous comprenez, dans le régime britannique parlementaire, peut pénétrer dans l'hémicycle de Westminster, au siège du Parlement britannique, et prononcer un discours. Quand vous prenez le régime politique français, qui est aussi entre le parlementarisme britannique et le présidentialisme de type classique, qui est entre les deux, vous ne verrez jamais Nicolas Sarkozy entrer à l'hémicycle du Palais de Bourbon. Ça lui est interdit. Vous comprenez? Il se limite à se tenir dans les vérandas.
à l'entrée, mais il ne peut pas entrer dans l'émission.
C'est
pour faire comprendre. Ouais. Par contre, vous verrez François Fillon entrer au Parlement.
Premier ministre français.
Oui. Le Premier ministre entrer au Palais de Bourbon et prononcer un discours. Alors, j'aimerais dire ceci, que certaines pratiques, nous devons respecter les pratiques constitutionnelles. Ici, chez nous, nous avons un régime semi-présidentiel. Vous comprenez ? Doté d'un Parlement à deux chambres. On vient de vous lire ici le règlement intérieur. Même cette autorisation du président de la Chambre basse, soit de l'Assemblée nationale, devrait être soumise à la délibération en plénière pour cette acceptation-là. Vous conviendrez avec moi qu'il est président d'un organe délibérant, qui est la Chambre basse du Parlement. Elle devait être soumise à une délibération en plénière, à une discussion. Quand on dit qu'il y a un domaine de collaboration, le domaine de collaboration...
Ça veut dire qu'il faut nécessairement avoir...
Écoutez, ça ne s'entend pas dans ce sens-là. La démocratie dit qu'il y a la séparation de pouvoir, et cette séparation dit qu'il y a indépendance totale du législatif face à l'exécutif et de l'exécutif face au judiciaire. Mais cette collaboration ne signifie pas cohabitation. Je vous dis, Claude Kamanga, qu'il y a une cohabitation. Et quelle sorte de cohabitation, c'est-à-dire le bureau du chef de l'État est implanté dans l'organe législatif. Au sein, partage les mêmes bâtiments avec l'organe législatif. Je ne sais pas ce qui a poussé le chef de l'État à prendre une telle décision.
Oui, j'ai cité l'AFP, l'entourage du président de la République, qui a parlé sous anonymat, c'est rapprocher le chef de l'État et les groupes parlementaires.
Mais écoutez, ce rapprochement-là, il y a un cadre de collaboration. Il y a un ministère chargé des relations avec le Parlement. Qu'est-ce que ce ministère-là fait?
Je vais t'écouter,
Il y a un ministère au sein du gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Oui. N'est-ce pas là un cadre de collaboration? Là, je ne suis pas d'accord avec l'honorable Ponce Sadet. C'est-à-dire, on a outrepassé le cadre de collaboration prévu. Et ici, j'aimerais prendre le préambule de notre constitution. Très rapidement, le préambule dit ceci. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours des tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. Éviter les conflits. 2. Instaurer un état de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. Et 7. Assurer l'alternance démocratique. C'est bien prévu dans le préambule. Je pense que nous avons outrepassé là le domaine de la collaboration.
Merci. On va prendre, avant de passer la parole à Emery Okondji, d'abord d'autres réactions, toujours des députés nationaux. Là, je cite Jean-Claude Bouemba, qui a critiqué le déménagement, estimant à l'AFP que l'Assemblée, cet espace de la liberté et de la tolérance, se transforme, je cite, en un état policier en raison de la présence des services de sécurité du président de la République. Roger Lumbala, député de l'opposition, lui, il a été contacté par Marie Chantal, notre consoeur. Il dit que c'est anticonstitutionnel et il craint le renforcement des dispositions sécuritaires au Palais du Peuple. Et Aubin Minaku, député national du PPRD, pour lui, le chef de l'État a le droit de s'installer au lieu de son choix. Emery Okondji, est-ce que le chef de l'État, c'est vrai qu'il a le choix de s'installer dans le lieu de son choix?
Non, je l'ai clairement dit ici que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et dans le cas actuel, même si le président de l'Assemblée nationale l'autorisait, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas cette compétence.
Il doit vous poser la question
en plénière. Effectivement, en plénière. Et je vous renvoie à l'article 29 du règlement intérieur au point 5. Le président de l'Assemblée nationale, parmi ses tâches, il doit faire observer le règlement intérieur ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires relatives à l'Assemblée nationale. Donc, le règlement intérieur, dans son article 6, ne permet pas cela. Donc, le président de l'Assemblée nationale n'a pas compétence pour autoriser le chef de l'exécutif, le président de la République, à avoir un bureau au sein du siège de l'institution Parlement de la République démocratique du Congo.
Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que de toute façon, le président Kamere a déjà libéré son bureau, les effets sont dans le couloir, d'après nos sources.
Oui, moi-même,
la présidence est déjà là, visible.
On va faire quoi? Moi-même, je l'ai constaté. Nous espérons que le chef de l'État va se ressaisir pour, en tout cas, protéger ses prérogatives constitutionnelles, celui des garants de la nation, garant des institutions de la République. Puisque c'est ce qu'ont dit mes collègues à propos de cette délocalisation est vrai. C'est un chef de l'État. Il doit être sécurisé. Moi, je n'accepterai pas qu'un chef de l'État soit dans un endroit où il ne sera pas sécurisé. Il doit être sécurisé, il doit avoir toute la sécurité possible. Et là, je l'ai démontré ici que nous sommes dans une période où nous devons être en contact permanent. Nous devons être très ouverts vis-à-vis de ceux qui nous ont mandatés, vis-à-vis de nos électeurs, pour leur donner l'information, leur expliquer. Des fois, ils viennent assister à nos plénières pour voir comment les élus défendent les intérêts.
Ça risque d'être compliqué après.
Ah oui, très compliqué.
Merci beaucoup. On va prendre très rapidement une autre réaction d'un auditeur. Il s'agit de Sylvain Depierre qui nous écrit de Guémena. Dans la province de l'Équateur, il pense que la présence du bureau du président de la République au Palais du Peuple va sans doute enfreindre la liberté des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions. N'a-t-il pas un autre lieu propice pouvant abriter ce bureau en dehors du site ciblé? Comment vous répondez très rapidement, honorable princesse Adèle Kaïnda-Maïna? Vous êtes députée nationale du PPRD.
Merci. Je voulais quand même ouvrir une parenthèse que je veux la fermer tout de suite et que l'honorable Emery a siégé avec moi la législature passée et ce règlement, quand il a été adopté, nous étions ensemble. Vous savez que c'est un document qui pour nous, comme je vous ai dit, à force de loi, ce n'est que la force de loi. Si jamais que le président de l'Assemblée se prononce, il fallait d'abord qu'il soit requis de l'autorisation de la plénière, ça devrait être dit.
Non, ce n'est pas dit.
Ce n'est pas dit.
Oui. Mais comment vous pouvez...
Ce qui n'est pas dit,
oui.
Effectivement, on ne peut pas se les refuser.
Voilà.
Donc, parce que ici, dans le règlement, quand vous voyez, parce qu'il a fait allusion à l'article 29, je vous, par exemple, la première fois, on dit, il fait au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et rendre régulièrement compte à la plénière.
Oui.
C'est bien dit.
Oui. Là, vous...
C'est-à-dire, c'est concis.
Oui.
Comme ce n'est pas dit ici,
oui.
Et nous ne pouvons pas refuser que le président de l'Assemblée nationale, il a aussi le pouvoir qui doit exercer une consulte. C'est pas qu'il doit consulter la plénière, parce que nous sommes la souveraineté. Mais pour ça, nous devons les lui reconnaître que c'est entre dans ses prérogatives.
Et honorable, vous avez dit vous-même que c'est une petite parenthèse que vous refermez.
Voilà,
mais par rapport à la liberté, très rapidement, par rapport aux libertés ou à la liberté des parlementaires d'exercer leur fonction.
À la liberté,
vous serez peut-être plus libre parce que vous êtes PPRD.
Non, c'est pareil, c'est pas ça. Nous disons les chefs de l'État. Les chefs de l'État, il est notre chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État du PPRD, ni il n'est pas chef de l'État de l'AMP.
Vous de l'exercer comme d'habitude.
Tous les députés, parce qu'il va communier aussi avec les députés. J'ai parlé de la consultation, il faut bien me comprendre. Effectivement, le président sera en consultation avec le président de deux chambres, avec les deux bureaux de deux chambres.
Bref, ça ne pose pas de problème de liberté dans l'exercice de votre fonction.
Écoutez, ça ne pose pas de liberté parce que je vous ai dit que le fonctionnement sera régulier. Ça ne posera pas problème.
Merci.
Il ne faut pas, monsieur le journaliste, il ne faut pas me couper parce qu'en donnant la parole à maître,
regardez,
tu avais dit qu'effectivement, tu allais retourner.
Regardez le chrono.
Oui, oui, tu allais
retourner. Vous avez 11 minutes, c'est plus que tout le monde. Allez, si vous voulez conclure très rapidement.
Conclure
Non, oui, à ce niveau, parce qu'on va poursuivre, on va prendre les autres réactions.
Ah, ok. Je me dis que ça ne peut pas enfreindre la liberté des autres. Et tout ce que j'ai voulu dire est qu'on ne puisse pas prendre le chef de l'État comme à l'époque où un président de la République, il y avait éloignement entre le chef de l'État et le peuple.
Voilà, je vais essayer de se rapprocher du peuple.
Oui, il vient de casser ses mythes.
Merci beaucoup.
Il se rapproche du peuple. Et vous pouvez imaginer, quand on parle par exemple de la commune de la Gombe,
oui.
On voit cet arsenal juridique de la sécurité.
Oui.
Le chef de l'État vient travailler à la cité, dans la commune de Lingwala. Donc il est à la base.
Merci.
Pour ça, il faut l'applaudir.
Voilà.
Il faut avoir le courage de le féliciter.
Merci beaucoup, honorable.
Merci
honorable. Honorable, on va prendre là, c'est Emery Okundji aussi qui me fait rire. On va prendre Titi Mpoutou pour la suite des réactions des auditeurs. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. À savoir que nos auditeurs ont réagi par rapport aux deux thèmes, aux deux sujets.
Oui, très rapidement.
Pour Parker, cette nomination est un pas dans la bonne direction. Il serait inopérant sans une nouvelle mise en place au niveau de l'État, major des forces terrestres et surtout de la 8e région militaire. Il faut, en outre, en finir avec tous les généraux que cet auditeur qualifie de commerçants.
Prosper Kalombo.
Prosper Kalombo de l'ISP Bukavu Sud Kivu estime que l'armée a besoin de chefs de troupes de terrain et non de chefs de bureau.
Ouyentumba
de Mbandaka dans la province de l'Équateur se demande pourquoi les dirigeants voient la face de la population avec des changements de personnes, alors que
nul
n'ignore qu'il faut des moyens conséquents pour réorganiser une armée presque comparable au scoutisme.
Et on va terminer par Béni.
C'est l'intambre de Béni au Nord Kivu dit que c'est un vent nouveau d'où il faut des sérieux et des vigilances pour redorer l'image de l'armée nationale. Et aux députés, il leur demande de tourner leur regard vers l'est du pays au lieu de se disputer le bâtiment que doit occuper la présidence ou les parlements, avec le partage aussi puissant Longo Longo de Kalemi au 4.
Merci beaucoup, Titine. On commence par vous, oui, Achille Kabongo, peut-être par les auditeurs, ou vous voulez tout réagir par vous voulez
par rapport à ce que l'honorable.
Allez-y, et la mobilité, c'est de répondre à nos auditeurs.
Et là, c'est très dangereux, c'est que l'honorable princesse Adèle est en train de faire cette interprétation sélective ou restrictive du règlement intérieur de la Chambre basse de l'Assemblée nationale et une interprétation aussi sélective un peu des dispositions de la Constitution. La cohabitation s'entendrait au point de vue constitutionnel entre les organes d'un même pouvoir. Vous comprenez ? Au sein d'un même pouvoir, entre les organes, par exemple, du pouvoir législatif, les organes de l'exécutif ou du judiciaire. Cette cohabitation s'entendrait.
C'est que l'Assemblée et le Sénat, c'est normal.
C'est normal qu'il y ait cette cohabitation.
Mais pas la présidence et le Parlement.
Non, mais l'exécutif et le législatif ne peuvent pas cohabiter. Pourquoi Montesquieu, Charles-Louis de
Ségolène,
pourquoi Montesquieu a-t-il conçu cette séparation de pouvoir? C'est pour que la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, que ces institutions-là fonctionnent dans un système de collaboration et éviter que l'une de ces institutions ne puisse empiéter sur l'autre. Il y a un danger sérieux du fait que la présidence de la République s'implante dans le bâtiment de l'organe législatif, c'est qu'il peut y avoir empiétement, dans ce cas-là, sur les prérogatives de des deux chambres du Parlement et qui cohabitent avec ce bureau-là. Je pense que nous sommes revenus à ce qu'on appelle le césarisme empirique. Nous retournons en arrière au lieu de progresser. Ça défie tout entendement constitutionnel. Là, je vous dirai ceci. Que même
parce
si l'article 6, alinéa 6 du règlement intérieur de la Chambre basse donne des prérogatives, c'est-à-dire cette prérogative au président de l'Assemblée nationale d'autoriser ou de ne pas autoriser, cette autorisation, nous le disons, il ne peut pas la prendre seul. Il doit la soumettre à une voix délibérative au cours de la plénière. C'est comme ça que le Parlement fonctionne.
On a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Achille. Merci d'avoir compris. Alors, on va terminer parce qu'il faut répondre quand même à nos auditeurs, Emery Okonji. C'est les Tamboué de Béni qui vous demandent de ne plus vous disputer du bâtiment que doit prendre la présidence ou le Parlement. Si vous pouvez répondre très rapidement en quelques secondes, que vous devez beaucoup plus tourner votre regard vers l'est du pays. Qu'est-ce que vous répondez? En quelques secondes, 30 secondes.
Je lui réponds qu'il ne faudrait pas qu'on travaille dans la jungle. Il faudrait que l'on respecte les règles, les normes et les repères tracés par les textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous permettra de mobiliser toutes nos énergies vers l'est, où nous devons tous, en tout cas, de toutes les tendances confondues, défendre l'intégrité territoriale, défendre la sécurité de nos frères et sœurs, qui sont, en tout cas, dans des conditions inhumaines à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup. On va terminer par vous, Madame l'honorable Princesse Adèle, vraiment quelques secondes, avec Prosper Kalomboué, qui nous écrit de Bukavu. Il estime que l'armée a besoin de chefs de troupes, de terrain et non de chefs de bureau. En 10 secondes, qu'est-ce que vous dites?
Le chef de troupe, parce qu'on a besoin de combattre. Effectivement, on a toujours dit qu'il veut la paix, prépare la guerre.
Mais il ne veut pas qu'il y ait des commandants, des bureaux qui restent au bureau.
Effectivement, c'est une interpellation qui est tout à fait positive.
Merci beaucoup.
Je pense que nous devons.
On doit s'arrêter là. On doit s'arrêter là, on vous a compris. Merci, honorable princesse. Merci à tous qui nous avaient suivis. Mimi Kindou était à la technique, Pierrot et la Miji à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. Thank you.